Bonjour à tous, bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. Pas question d'épiloguer sur la littérature. Ici, on va lire des livres, tourner des pages. Bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Nous partons ce soir à la découverte d'un homme, considéré comme un des plus grands écrivains anglais, bien qu'il ne parlât pas correctement cette langue avant la vingtaine. Nous allons nous aventurer dans la prose de Joseph Theodor Conrad Korzeniuski, dit Joseph Conrad. Né en Russie, d'une famille noble, il est orphelin à 10 ans et grandit en Pologne. Je passe vite sur l'histoire de son insurgé de père et la mort précoce de sa mère. Toujours est-il que Conrad est vite attiré par l'aventure et s'engage dans la marine française puis anglaise pendant une quinzaine d'années. Après cette première carrière, il se lance dans l'aventure, éditoriale cette fois-ci, en se basant notamment sur ses expériences en mer. On le connaît notamment pour « Au cœur des ténèbres » qui raconte la remontée du fleuve Congo par un capitaine de la marine marchande. Une nouvelle qui reflète bien l'univers de Conrad, un monde dominé par l'Europe, son impérialisme et son colonialisme. Ce soir, j'ai choisi de lire quelques extraits de « Jeunesse », une nouvelle autobiographique où Conrad relate un voyage fait en 1883 à bord d'un trois-mâts, la Palestine, qui doit transporter une cargaison de charbon des côtes anglaises jusqu'à Bangkok. Un récit où se mêlent péripéties et émerveillement du voyage, mais aussi l'angoisse des vastes espaces, de la mer et de la psyché humaine. Pour notre lecture du jour, je commence au début du roman. Bonne écoute à tous. Ceci n'eût pu se produire nulle part ailleurs qu'en Angleterre, où les hommes et la mer s'interpénètrent, pour ainsi dire, où la mer s'infiltre dans la vie de la plupart des hommes et où les hommes ont une connaissance superficielle ou profonde de la mer, comme moyen de plaisance, de voyage ou de subsistance. Nous étions assis autour d'une table d'acajou où se reflétaient la bouteille, les verres à bord d'eau, et comme nous étions accoudés à cette table, nos visages. Il y avait un administrateur de société, un comptable, un juriste, Marlowe et moi-même. L'administrateur avait été formé à bord du bateau-école Conway. Le comptable avait servi 4 ans en mer, le juriste, Tory Bontin, partisan de la haute église, le plus chic type du monde, âme chevaleresque, avait été second dans la compagnie péninsulaire et orientale au bon vieux temps où les paquebots postes étaient gréés en carré sur au moins 2 mâts et traversaient la mer de Chine devant une mousson favorable, bonnette basse et haute établie. Nous avions tous débuté dans la marine marchande. Il y avait entre nous 5 le lien puissant de la mer et aussi la solidarité du métier que ne peut conférer nulle passion, si grande soit-elle, du yachting, des croisières, car d'un côté, ce n'est pas que plaisir de la vie et de l'autre, c'est la vie elle-même. Marlowe, du moins c'est ainsi je crois qu'il orthographiait son nom, relatait l'histoire, ou plutôt la chronique, d'une traversée. Oui, je connais un peu les mers d'Orient, mais ce que je me rappelle le mieux, c'est la première traversée que j'ai faite pour y aller. Vous autres, vous savez qu'il y a de ces traversées qui semblent être destinées à servir d'illustration à la vie et qui pourraient bien faire office de symbole de l'existence. On lutte, on travaille, on sue sang et eau, on se tue presque à la tâche. Parfois, on se tue bel et bien en essayant d'accomplir quelque chose et on échoue. Et on n'est pas responsable, c'est simplement qu'on ne peut rien faire, rien de grand ni rien de petit, rien du tout, pas même épouser une vieille fille ni mener à bon port une malheureuse cargaison de 600 tonnes de charbon. Ce fut une affaire absolument mémorable. C'était ma première traversée vers l'Orient et ma première traversée comme lieutenant. C'était aussi le premier commandement de mon capitaine. Vous avouerez qu'il était temps. Il avait la soixantaine bien sonnée. C'était un petit bonhomme au dos large, un peu voûté, aux épaules tombantes avec une jambe plus arquée que l'autre. Il avait cet aspect étrangement déjeté que l'on remarque si souvent chez ceux qui travaillent au champ. Il avait une figure en casse-noisette. Le menton et le nez tenant. Ce fut une affaire absolument mémorable. C'était ma première traversée vers l'Orient et ma première traversée comme lieutenant. C'était aussi le premier commandement de mon capitaine. Vous avouerez qu'il était temps. Il avait la soixantaine bien sonnée. C'était un petit bonhomme au dos large, un peu voûté, aux épaules tombantes, avec une jambe plus arquée que l'autre. Il avait cet aspect étrangement déjeté que l'on remarque si souvent chez ceux qui travaillent au champ. Il avait une figure en casse-noisette, le menton et le nez tentant de se rejoindre par-dessus une bouche enfoncée, encadrée d'un duvet poivre et sel qui ressemblait à une jugulaire droite saupoudrée de poussière de charbon. Il avait des yeux bleus, qui dans son visage âgé, évoquaient de surprenante façon des yeux d'enfant, avec cet air candide que conservent jusqu'à la fin de leur jour certains hommes tout à fait ordinaires, grâce à un don secret et rare de simplicité de cœur et de droiture d'âme. Ce qui l'incita à accepter mes services tient du miracle. Je venais d'un clipper australien d'élite à bord duquel j'avais été second lieutenant, et il semblait avoir des préjugés contre les clippers d'élite parce que, aristocratique et trop racé, il me dit. « Sur ce bateau, il faudra que vous travailliez, vous savez. » Je lui répondis qu'il m'avait fallu travailler sur tous les bateaux où j'avais été engagé. « Ah, mais c'est différent !» Et puis, vous, les messieurs qui venez de ces gros bateaux. « Mais baste, j'imagine que vous ferez l'affaire. Présentez-vous demain. »
Frère de la côte, aux yeux bagués, radio pirate identifié. Frères autonomes du sud au nord, fichés marqués, gens des grands ports. Traqué par la police, classant les puissants sur des listes. Aventurier de l'entresol, marchand double de camisole, prophète escroc, psychiatre trouble, journaux truqués, frappeur de roubles, miroir sans teint, vérité borgne, homme de main basse besogne, révélation diffusée, arrêt du cœur inexpliqué, barbare aux couteaux étoilés, un œillet à la boutonnière, qui assassine les banquiers, vous n'avez ni croix ni bannière.
Le bien est une fleur calcinée, le mal, un retour en arrière, le risque, un composant de l'air,
La mort, un sourire décalé. Séchez votre sang dans le noir. Dites-moi. Gens de pouvoir aux mains de fer, trafiquants d'azur sur la mer, pétrolier gris dans le brouillard, aux équipages de bagnards. Vous avez caché dans vos soutes quelques abstentions pour le doute. Message codé aux interphones dans les couloirs du Patagone. Tueur classé professionnel, allant très vite à l'essentiel. Prise arrachée pour le sommeil, billet open pour le soleil. Chèque en blanc barré sur l'ennui, sexe symbole pour l'appétit. Manipulation des mémoires, lutte interclan dans les couloirs. Téléphone piégé, la terreur dans la mémoire des producteurs. L'amour est un colis piégé. La haine, un moteur auxiliaire. L'angoisse, une voix qu'on fait taire. La mort, un vieux compte à régler. Rampé dans l'immense entonnoir. Dites-moi, où est le pouvoir ?
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B, 94 MHz. Vous venez d'écouter Frères de la Côte de Bernard Lavilliers. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture de Jeunesse de Joseph Conrad. C'était il y a 22 ans et j'avais juste 20 ans. Comme le temps passe. Ce fut un des jours le plus heureux de ma vie. Imaginez donc, lieutenant pour la première fois, officier vraiment responsable, je n'aurais pas renoncé à mon nouveau poste pour tout l'or du monde. Le second m'examina de la tête aux pieds. C'était un vieux bonhomme, lui aussi, mais d'une autre trempe. Il avait un nez aquilin, une longue barbe neigeuse, et il se nommait Mahon. Mais il tenait à ce que l'on prononçât Man. Il était de bonne famille, pourtant la chance ne lui souriait guère, et il n'avait jamais réussi. Quant au capitaine, il avait servi pendant des années sur des caboteurs, puis en Méditerranée, et pour finir sur les lignes antillaises. Il n'avait jamais doublé les caps, c'est tout juste s'il savait écrire en formant à peine ses lettres. D'ailleurs, il n'aimait pas du tout écrire. C'était, tous deux, bien sûr, des hommes de mer accomplis, et entre ces deux vieux bonhommes, j'avais l'impression d'être un petit garçon entre ces deux grands-pères. Le bateau aussi était vieux. Il avait pour nom Judée. Drôle de nom, n'est-ce pas ? Il appartenait à un certain Wilmer Wilcox, un nom de ce genre, mais il y a 20 ans ou plus qu'il a fait faillite et qu'il est mort, et son nom, on s'en fiche. Le bateau était destiné et désarmé dans le bassin de Shadwell. Depuis je ne sais combien de temps. Je vous laisse imaginer son état. C'était un bloc de rouille couvert de poussière et de crasse, suie dans la mâture, saletée sur le pont. Pour moi, c'était comme si j'avais quitté un palais pour entrer dans une chaumière délabrée. Il jaugeait environ 400 tonneaux, était équipé d'un guindeau rudimentaire, de loquets de bois aux portes, pas le moindre bout de laiton à bord, l'arrière large et carré. On y voyait, sous son nom écrit en grosses lettres, tout un tas de fioritures qui avaient perdu leur dorure et une sorte d'écusson surmontant la devise « vaincre ou périr ». Je me souviens que cela me plut énormément. Il y avait une note romanesque dans tout cela, quelque chose qui me fut aimé, ce vieux raffio, quelque chose qui séduisit ma jeunesse. Nous quittâmes Londres sur l'est de sable, pour charger une cargaison de charbon dans un port du nord de l'Angleterre à destination de Bangkok. Bangkok. J'en étais bouleversé. Je naviguais depuis 6 ans et je n'avais jamais vu que Melbourne et Sydney, de très jolis coins, des coins charmants à leur manière, mais Bangkok. Nous manœuvrâmes à la voile pour sortir de la Tamise avec un pilote de la mer du Nord à bord. Il s'appelait Jermyn et il traînassait toute la journée autour de la cuisine pour faire sécher son mouchoir devant le fourneau. Apparemment, il ne dormait jamais. C'était un homme géniard, avec une larme qui lui perlait perpétuellement au bout du nez. Qui avait eu des ennuis, ou en avait, ou alors s'attendait à en avoir, il ne pouvait être heureux que si quelque chose allait mal. Il se défiait de ma jeunesse, de mon bon sens et de mes capacités de marin, et mettait un point d'honneur à le montrer de 100 petites manières. Je suppose qu'il avait raison. Il me semble que je savais peu de choses alors, et je n'en sais guère plus maintenant, mais je voue à ce Jermyn une haine encore tenace à ce jour.
La mer. La mer. Voit danser le long de golfe clair. À des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la fille. La mer, quand voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands eaux mouillées. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous avez raison, vous venez d'écouter La mer de Charles Trenet. C'est parti pour la troisième et dernière lecture du jour, toujours dans le sillage du Judée. Il nous fallut louvoyer une semaine avant d'atteindre la rade de Yarmouth. Et c'est alors qu'on prit une de ces tempêtes, la fameuse tempête d'octobre d'il y a 22 ans, vent, éclair, neige mêlée de pluie, neige en flocons avec une mer terrible. Le navire était léger et nous filions à grande vitesse et vous imaginerez facilement à quel point les choses allaient mal lorsque je vous aurais dit que nous avions nos pavois défoncés et un pont inondé. La deuxième nuit, notre lest ripa jusqu'à la joue sous le vent, tandis que nous avions été dépalés quelque part sur le Dogger Bank. Il n'y avait plus qu'à descendre armé de pelles pour essayer de redresser le bateau, et nous voilà dans cette cale immense, sombre comme une caverne. La flamme des chandelles fichées sur les baux vacillait, la tempête faisait rage au-dessus, le bateau tanguait follement sur le flanc, et nous étions tous là, Jermaine, le capitaine, tout le monde, ayant bien du mal à tenir sur nos jambes, occupé à cette besogne de fossoyeurs, essayant de lancer des pelletées de sable mouillé de bas en haut vers le bord au vent. Chaque fois que le bateau tombait dans un trou, on apercevait confusément à la lueur des chandelles des hommes qui s'écroulaient en décrivant de grands moulinets avec leurs pelles. Un des mousses, nous en avions deux, impressionné par le caractère surnaturel de la scène, se mit à pleurer à rendre l'âme. On l'entendait pleurnicher quelque part dans l'ombre. Le troisième jour, la tempête tomba et bientôt, un remorqueur du Nord nous prit en charge. Il nous fallut 16 jours en tout et pour tout pour atteindre la Tyne depuis Londres. Quand nous entrâmes dans le bassin, nous avions passé notre tour de chargement et on nous hala jusqu'à une file de bateaux où nous restâmes relégués un mois. Madame Béard, le capitaine s'appelait Béard, vint de Colchester voir le vieux. Elle s'installa à bord. L'équipage volant était parti et il ne restait que les officiers, un mousse et le cambusier, mulâtre qui répondait au nom d'Abraham. Madame Béard était une vieille femme au visage tout parcheminé et vermeil comme une pomme d'hiver, avec une silhouette de jeune fille. Elle me surprit une fois à coudre un bouton et insista pour que je lui donne mes chemises à raccommoder. Cela me changea des épouses de capitaine que j'avais connues à bord des clippers d'élite. Quand je lui apportai les chemises, elle me dit « Et les chaussettes, elles ont besoin d'être reprisées ? J'en suis sûr. Et les affaires de John, le capitaine du Bird, sont toutes en état maintenant. Je serai contente d'avoir quelque chose à faire. » Ah, la brave vieille ! Elle passa en revue tout mon paquetage et, entre-temps, je lus pour la première fois « Sartor Resartus » et « La chevauchée vers Kiva » de Barnaby. Je ne compris pas grand-chose alors au premier de ces livres, mais je me souvins qu'à l'époque je préférais le soldat au philosophe, préférence que la vie n'a fait que confirmer. L'un était un homme et l'autre était ou bien plus ou bien moins. Quoi qu'il en soit, ils sont morts tous les deux. Madame Bird aussi est morte, la jeunesse, la force, le génie, les pensées, les exploits, les cœurs simples, tout meurt, qu'importe. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, Jeunesse de Joseph Conrad est édité chez Folio. Merci pour votre attention, l'émission est à réécouter, comme d'habitude, en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.